Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le dimanche 3 mai 1401 du calendrier iranien, 25 septembre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Les forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique lancent une attaque d'artillerie contre les bases terroristes dans le nord de l'Irak. Washington doit prendre la décision qui conduira à un accord solide et durable, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Manifestation en Iran contre les violences et les émeutes dans plusieurs villes. Et la Corée du Nord tire un missile balistique en mer de Chine orientale. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les Américains avaient envoyé des messages ces derniers jours à Téhéran, indiquant qu'ils étaient prêts à conclure un accord lors des pourparlers de Vienne. Hossein Amir Abdollahian est actuellement à New York pour tenir des réunions en marge de la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a déclaré que l'Iran avait répondu à la partie américaine que ce ne serait qu'avec une approche réaliste et de la bonne volonté qu'il serait possible de conclure l'accord. Il a précisé que l'Iran était prêt pour un accord durable pour la relance de l'accord de 2015 et qu'il appartenait à Washington de prendre une décision qui conduirait à un accord solide et durable. En 2018, les États-Unis se sont retirés de l'accord nucléaire, remettant son sort en question. L'Iran a réagi en réduisant certains de ses engagements nucléaires. Plusieurs séries de pourparlers ont eu lieu à Vienne dans le cadre des efforts visant à relancer l'accord. La Maison-Blanche a déclaré vendredi 23 septembre, après avoir refusé de donner sa réponse au paquet de propositions de l'Europe, que la poursuite des négociations avec l'Iran allait dans l'intérêt de la sécurité nationale américaine. Pourtant, ces dernières semaines, les Américains n'ont cessé de le discréditer par leurs paroles et actes, tout en bloquant le retour. Et Joe Biden et les responsables de son administration continuent d'éluder la mise en œuvre de leurs engagements dans les négociations sur la levée des sanctions illégales contre la République islamique d'Iran. Les Iraniens sont dans les rues à travers le pays pour condamner les dernières émeutes qui ont éclaté dans plusieurs villes au cours de la semaine dernière. Des foules de manifestants se mobilisent pour dénoncer les profanations des lieux saints ainsi que les actes de vandalisme lors des émeutes. Les émeutiers ont bloqué les rues, saccagé les biens publics et des véhicules de police incendié des dizaines d'ambulances. Cela faisait suite au décès d'une femme de 22 ans au début du mois après avoir été emmenée dans un poste de police. Le commandant de la police de Téhéran, Hossein Rahimi, a rejeté les allégations selon lesquelles cette femme aurait été agressée physiquement. Les responsables disent qu'elle est décédée de conditions médicales. Concernant les ingérences dans les affaires internes de la République islamique d'Iran, les ambassadeurs britanniques et norvégiens à Téhéran ont été convoqués au ministère iranien des Affaires étrangères. Lors de cette convocation, l'ampleur de la vive protestation de la République islamique d'Iran a été transmise contre le gouvernement britannique en raison de l'accueil offert par ce pays aux médias persanophones anti-iraniens qui, ces derniers jours, ont placé l'incitation et l'invitation aux troubles et à la propagation des émeutes en République islamique d'Iran au sommet de leurs émissions. En outre, il a été souligné que cet acte du régime britannique est considéré comme une ingérence dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran et une action contre la souveraineté nationale de l'Iran. L'ambassadeur de Norvège à Téhéran a été convoqué aussi samedi au ministère iranien des Affaires étrangères. Lors de cette réunion, la forte objection de la République islamique d'Iran aux déclarations sans fondement du président du Parlement norvégien concernant les récents troubles a été communiquée à l'ambassadeur et il a été souligné que ces déclarations non constructives sont considérées comme ingérence dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran. La République islamique d'Iran reproche aux États-Unis d'avoir fait des exceptions à leurs sanctions en matière de télécommunications quand il s'agit de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré qu'en assouplissant un certain nombre de sanctions sur les télécommunications, tout en maintenant la campagne de pression maximale en place, les États-Unis ne font qu'essayer de provoquer l'instabilité en Iran. Kanani a qualifié ces tactiques d'hypocrites et de néfastes destinées à violer la souveraineté nationale de la République islamique d'Iran et a déclaré qu'elle ne resterait pas sans réponse. Le Trésor américain a délivré une licence pour assouplir les sanctions Internet contre l'Iran, prétendument pour soutenir la libre circulation de l'information au peuple iranien. Mais le gouvernement iranien affirme avoir restreint l'accès à Internet dans certaines régions pour faire face aux émeutes violentes et au vandalisme. La République islamique d'Iran a qualifié la levée des sanctions Internet de tactique hypocrite et néfaste contre la souveraineté du pays. Et enfin, il y a quelques heures à peine, la Corée du Nord a effectué un nouveau tir de missile dans le cadre de ses exercices militaires en mer de Chine orientale avant la visite dans le sud voisin d'un haut responsable américain. La Corée du Sud affirme que le missile balistique à courte portée a parcouru environ 600 km avant de tomber en mer. Séoul a qualifié le lancement d'acte de provocation injustifiable, affirmant que son armée est prête à répondre à toute menace. La vice-présidente américaine Kamala Harris prévoit de se rendre à Séoul la semaine prochaine. À partir de lundi également, les forces sud-coréennes et américaines organiseront des exercices militaires massifs de 4 jours. le porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan est déjà arrivé en Corée du Sud en préparation des War Games. Le Sud et les États-Unis mènent régulièrement des exercices militaires dans la région. Pyongyang les considère comme une répétition pour l'invasion. C'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Les forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique ont pilonné des bases terroristes dans le nord de l'Irak avec des tirs d'artillerie. La base de Hamza Sayed al-Shuhada du corps des gardiens de la révolution islamique a attaqué samedi les bases des terroristes anti-iraniens dans le nord de l'Irak. Dans un communiqué publié samedi, le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que les unités appartenant à la base de Hamza Sayed al-Shuhada avaient lancé l'opération pour détruire les positions des groupes terroristes anti-iraniens affiliés à l'arrogance mondiale dans le nord de l'Irak qui ont ces derniers jours franchi les frontières nord-ouest de l'Iran et attaqué certaines bases frontalières de l'Iran. Il a ajouté que les forces du corps des gardiens de la révolution islamique ont donné une réponse décisive aux attaques terroristes après que les responsables du nord de l'Irak se sont abstenus de prendre une mesure appropriée et de prêter attention aux nombreux avertissements qui leur ont été donnés contre le déploiement et l'activité de mercenaires et de terroristes contre-révolutionnaires à l'encontre de la République islamique d'Iran. Le communiqué ajoute que l'opération se poursuivra afin d'assurer une sécurité durable aux frontières et de punir les terroristes criminels, mais aussi de tenir les responsables du nord de l'Irak responsables de l'accomplissement de leurs obligations légales conformément au règlement international. La République islamique d'Iran a averti à d'innombrables reprises la région semi-autonome du Kurdistan irakien qu'il ne tolère pas la présence et l'activité de groupes terroristes le long de ses frontières nord-ouest, affirmant que le pays donnerait une réponse décisive si ces régions devenaient une plaque tournante des terroristes anti-république islamique. En mai dernier, le corps des gardiens de la révolution islamique a ciblé et détruit des positions de groupes terroristes opérant près des frontières occidentales du pays à Erbil, la capitale de la région semi-autonome du Kurdistan irakien. En septembre de l'année dernière, le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé une attaque dans le nord de l'Irak où il a détruit quatre bases appartenant à des groupes hostiles. Des groupes contre-révolutionnaires ont été organisés par les services de renseignement de pays hostiles et étrangers et même de certains États arabes du sud de l'Irak pour être utilisés conformément à la réalisation de leurs objectifs et à la création d'obstacles sur le chemin de la République islamique d'Iran, a déclaré le commandant adjoint de la base Hamza Sayed al-Shuhada du corps des gardiens de la révolution islamique dans le nord-ouest de l'Iran.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat. En effet, lors de ces derniers discours, le dernier datant de la journée d'Arbaïn, la semaine dernière, le secrétaire général du Hezbollah libanais a évoqué la frontière, la région frontalière de Karish, cette région disputée entre le Liban et le régime sioniste. Dans tous ses discours, le secrétaire général du Hezbollah libanais insistait sur le fait que le Liban était insistante sur cette zone et que si le régime sioniste continuait, poursuivait ses actes de déstabilisation et d'ingérence dans cette région, le Hezbollah libanais ne resterait pas les bras croisés et réagirait face à ces tentatives de déstabilisation et d'ingérence. D'un autre côté, et lors de l'Assemblée générale des Nations unies, la 77e Assemblée générale des Nations unies, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré son homologue libanais et a fait état, de la préparation d'Iran de livrer du pétrole au Liban dans cette conjoncture actuelle. Alors nous allons évoquer ce sujet avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous invite à regarder un reportage à ce sujet. On revient tout de suite après.
Le mercredi 20 septembre, à peine quelques heures après que les médiationnistes se sont mis à évoquer des concessions faites par Israël au Liban, afin que l'exploitation du gisement gazier Karish puisse se faire sans que l'entité ait à subir une punition balistique du Hezbollah, les agences israéliennes ont parlé de long en large d'un test de missile antinavire sioniste qui aurait été effectué avec succès en Méditerranée orientale. En effet, il y aurait trop d'allusions à Hezbollah et à l'Iran dans ce jeu sioniste pour que l'observateur averti ne s'en aperçoive pas. Il y a d'abord et avant tout cette colossale marche arrière face à la résistance libanaise que le gourou Netanyahou a décrit à juste comme étant la trouille noire de Nasrallah qui s'est emparée de Lapide et qui a fait que l'entité a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre, à savoir jusqu'à ce que le Hezbollah soit satisfait des propositions US-Israël mises sur la table, les travaux de forage à Karish et y faire l'opération plateforme morte, même si elle ne cessait jusqu'ici de crier sur les toits que Karish se trouvait dans sa zone économique. Car que l'entité accepte l'ouverture d'un corridor naval Iran-Hezbollah, cela revient à remettre littéralement en cause sa propre campagne de guerre, dont la guerre contre la Syrie, où elle tente depuis 10 ans et sans succès, d'ailleurs, de couper la voie de transit terrestre des armements iraniens au Hezbollah. Ne serait-il pas désormais une totale perte d'argent et de force qu'au faire décoller les F-16, de les envoyer à leur risque et péril, mais aussi au risque et puéril des forces américaines en station Syrie frappées Alep, Damas, Hama. Bien sûr qu'aussi, ou autrement dit, un corridor maritime Iran-Hezbollah, cela fera de la campagne de guerre dans la guerre israélienne contre la Syrie le meilleur allié de la résistance qui s'en servira comme prétexte pour attaquer les Yankees. Mais l'absurdité du test à Gabriel 7, missile conjoint Israël-Chad-Iran, qui ne devrait pas, sauf avoir aucun énigme pour les Iraniens, le Hezbollah, n'en reste pas là, car les sources bien informées font état d'une rencontre d'un tête-à-tête Assad Nasrallah. Qui a donné lieu à quoi? Le Hezbollah libanais déployé en Syrie depuis 2013 ne se retirera pas, mais fortifiera les emplacements de la force de missiles de l'organisation se trouvant en territoire syrien. La Syrie fait partie de l'axe de la résistance, de sorte que, s'il le faut, elle sera incluse dans le théâtre des opérations militaires en cas de guerre israélienne contre le Liban, sacré coup que celui de Karish.
Voilà, de retour sur le plateau du débat. Nous allons tout de suite commencer avec notre première invitée depuis Beyrouth, Rada Oubala, docteur Rada Oubala, géopoliticienne à l'Université islamique du Liban. Je vous dis bonjour Madame Oubala et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce débat. Alors, dans un premier temps, comment interprétez-vous la situation actuelle en ce qui concerne la région, la zone contestée de Karish et les mises en garde du secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, quant à des tirs de missiles si jamais Israël continue ses menaces contre ces régions?
Bon, d'abord, dans cette lecture, il faut souligner deux points. C'est-à-dire qu'il faut mettre en exergue la position du Hezbollah officielle, qu'elle soit exprimée par le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, mais aussi, bien entendu, la réaction ou la position de la partie adverse, à savoir l'entité sioniste, que ce soit à travers les médias israéliens ou bien à travers des responsables militaires israéliens. Alors, pour commencer par Saïd Hassan Nasrallah, je rappelle que dans son discours qui a été prononcé lors de la cérémonie des Arba'in de l'imam Hussein alayhi salam, Saïd Hassan Nasrallah a bien souligné que nos yeux et nos missiles sont braqués sur le champ contesté de Karish. Mais il a ajouté quelque chose de très important, à savoir que d'abord, l'extraction du pétrole et du gaz de Karish est une ligne en termes de relations, quand on parle de ligne, c'est-à-dire que si cette ligne rouge, toute action minifiée, premièrement, deuxièmement, très claire, à la fin, dans son intérêt d'agir. Et pour la finule de rester et de ne pas intervenir si militaire de la part du Hezbollah défendre les droits du pétrole et son gaz de Karish. La deuxième chose, c'est Cheikh Qassem, qui est général adjoint du Hezbollah, que le Liban négocie aujourd'hui en cause. Donc, qu'il est prêt concernant ses droits ennemis israéliens. Une confirmation absolue que le Hezbollah pour céder un millième de ses droits au niveau du gaz et du pétrole. Revenons maintenant à la partie adverse, c'est-à-dire les médias israéliens, voire aussi les responsables israéliens. Pour les médias israéliens, le 23 septembre, ils ont déclaré que nous négocions avec le Liban sous la menace. Nasrallah a mis un pistolet sur la tête d'Israël. C'est une expression très forte.
Oui.
Cela signifie que les médias israéliens prennent très au sérieux les menaces du secrétaire général du Hezbollah. Et c'est là, c'est l'ancien ambassadeur israélien aux Nations Unies, Danny Danon, qui a déclaré à la télévision israélienne Channel 13: nous sommes en faveur des négociations et d'un accord avec le Liban, mais nous voyons actuellement les Israéliens en train de mener des négociations sous la menace. Et donc, la force de dissuasion du Hezbollah a forcé l'entité sioniste à négocier, ce dont jamais dans son histoire l'entité sioniste ne faisait. D'habitude, elle impose une guerre. Et la guerre, toujours, c'est une guerre qui est féroce, c'est-à-dire qu'elle utilise sa force aérienne, elle détruit de manière massive, et ensuite elle oblige la partie qu'elle a agressée d'aller aux négociations pour négocier selon les termes de l'entité sioniste. Alors que là, il n'y a pas eu encore de guerre, ce n'est qu'une force de dissuasion qui a été utilisée contre l'entité sioniste. Et cette forme de dissuasion est tellement menaçante qu'elle a obligé l'entité sioniste de mener des négociations sous la menace de l'aveu justement des médias israéliens ou bien de l'ancien ambassadeur israélien aux Nations Unies, Danny Danon. Mais allons plus loin. Il y a un général de réserve israélien qui a déclaré, je crois, le 19 septembre, donc bien avant cette déclaration, qui a déclaré que le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, constitue la menace la plus importante pour l'institution militaire et sécuritaire israélienne. Et en fait, cet ancien commandant de la division de l'armée israélienne qui s'appelle a déclaré de télévision israélienne qu'il faut prendre très au sérieux Saïd Hassan Nasrallah. En général, il tient sa parole. Vous ne comprendrez jamais ses intentions, mais cette personne, en général, sa nature et ses actions sont compatibles, voire similaires. Dans un contexte connexe, le commentateur des affaires palestiniennes de la télévision israélienne, Channel 12, a déclaré à propos du dernier discours de Saïd Hassan Nasrallah que les mots que nous avons entendus de Nasrallah ne sont pas nouveaux. Les discours que nous entendons du Hezbollah signifient qu'Israël a cédé. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, la société Energean, qui affirmait depuis deux semaines qu'elle entamerait l'extraction du gaz en septembre, l'a reportée à octobre. Voilà.
Merci pour vos explications. Restez en ligne, Madame Oubala. Alors, notre deuxième invité est Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. Monsieur Michel, est-ce que vous m'entendez ? Merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, en ce qui concerne cette affaire, mais notamment le fait que l'Iran a annoncé qu'il est prêt à fournir du pétrole au Liban dans un contexte de tension entre le régime sioniste et le Liban en ce qui concerne l'affaire de Karish. D'un autre côté, les États-Unis avaient envoyé un médiateur afin de soi-disant apaiser les tensions, mais sans vraiment de conséquences concrètes. Comment interprétez-vous tout ceci, Monsieur Michel ?
Oui, tout d'abord, bonjour à votre invité. Il faut constater quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, les grands principes de l'Occident sur la propriété privée, le respect du droit international, le respect des frontières de l'Occident en gaz, ne sont plus du tout respectés. Et en particulier, actuellement, les États-Unis, sous prétexte de permettre de la paix, autorisent les Israéliens à mener un véritable acte de piraterie internationale. Et une fois de plus, face à l'effondrement de l'État libanais, c'est le Hezbollah qui rétablit la défense de l'intégrité nationale.
Et à votre avis, en fin de compte, à quoi devrait-on s'attendre dans cette affaire ? Est-ce qu'Israël poursuivra ses menaces, ses mises en garde ? Est-ce que cette coalition renforcée entre le Liban et l'Iran sera une réponse assez ferme, en fait, aux tentatives et aux menaces israéliennes menées contre l'axe de la résistance, mais là, notamment le Hezbollah libanais et le Liban en général ?
Les Israéliens, je sens évidemment encouragés dans leur politique extrémiste, ils voient que les Occidentaux les soutiennent tout à fait, puisque la position américaine est scandaleuse dans l'appel pour un soi-disant arbitre. Maintenant, évidemment, est-ce qu'Israël mesure bien les conséquences, c'est-à-dire risquer une guerre, risquer de voir les champs gaziers et le pétrolier israélien frappé dans le Hezbollah, ça je n'en suis pas sûr. Mais aujourd'hui, évidemment, la communauté occidentale est tout à fait dépassée dans cette rétention. Elle croit qu'elle est encore sous l'empire de l'ancien ordre des choses, alors que le nouvel ordre mondial international qui existait avant tout, celui de la toute-puissance occidentale, n'existe plus.
Merci. Restez en ligne, Monsieur Michel. Madame Oubala, vous, à votre avis, à quoi devrait-on s'attendre dans les jours, les semaines à venir concernant cette affaire, surtout après cette rencontre entre le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue libanais, et le fait que voilà, l'Iran serait un partenaire assez important dans le domaine énergétique du Liban?
C'est pas le fait que l'Iran pourrait être un partenaire. Le Liban n'est pas nouveau, en ce sens que depuis le début de la crise économique, sociale et monétaire au Liban, qui a ajouté à cela une crise également au niveau de l'énergie, c'est-à-dire en fuel ou en essence. Bon, le secrétaire général du Hezbollah avait à plusieurs reprises mis en garde les États-Unis de ne point étouffer ou bien asphyxier les il comptait prendre des mesures prises quand il a véritablement demandé de l'aide, comme il le dit, à son allié l'Iran. Et donc, il a pu transporter depuis la Syrie jusqu'à travers les frontières libanaises, entre guillemets illégitimes, du mois d'août, afin que les Libanais puissent se réchauffer durant l'hiver. Bon, et à plusieurs reprises, il a lancé à l'État, au gouvernement, plusieurs appels, voire il a exhorté, d'aller conclure des négociations avec justement la partie iranienne, que les Iraniens sont prêts à offrir du pétrole et du gaz pour le Liban. Mais encore récemment, dans son dernier discours, ou avant-dernier je crois, il avait bien souligné que l'Iran était prêt à donner un don. Et en termes de relations internationales et de droit international public, un don n'est pas soumis à des sanctions. Donc c'est une manière, si vous voulez, de pouvoir dérouter les sanctions. Et donc un don, à ce moment-là, le gouvernement libanais a pris l'initiative en créant à travers le ministère de l'énergie un comité purement technique, c'est-à-dire composé d'experts techniques qui s'est rendu en Iran afin justement d'étudier la question. Mais il ne faut pas oublier que toute cette initiative qui a été prise justement par le gouvernement libanais, je pense qu'elle n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas un feu vert de la part des États-Unis. Donc une volonté de la part des États-Unis de calmer, entre guillemets, de ne pas exposer de cible. Donc, a toujours été dans Libanais, pour ne pas dire pour tous les Libanais, puisque Dieu, il est divisé horizontalement, donc, un certain nombre de Libanais, l'Iran représente, oui, un partenaire fiable aux côtés de la Chine aussi, concernant pas seulement au niveau de la question de l'énergie, mais aussi au niveau de tout projet de reconstruction des infrastructures, ou voire le port de Beyrouth, etc. Donc oui. Donc je ne peux pas vous donner une réponse précise. Mm-hmm. Tout cela dépend en fait de la situation, comment la situation va évoluer, la situation géopolitique interne évoluera au Liban, puisque nous avons là maintenant une échéance, l'échéance présidentielle. On n'a pas de gouvernement, donc également c'est une deuxième échéance. Donc on a deux échéances qui vont bien entendu décider comment sera le paysage politique au Liban. Et jusqu'à maintenant, il n'y a que des discours, des mots qui sont en train d'être exprimés, mais rien sur le terrain véritablement concret.
Merci pour vos explications. Merci, restez en ligne s'il vous plaît. Monsieur Michel, en ce qui concerne la situation actuelle d'Israël, il semblerait que le régime sioniste est de plus en plus sous pression, d'une part par la Palestine occupée, cette résistance du peuple palestinien, d'un autre part, voilà, de ses agissements, de ses évolutions au Liban et ce rapprochement davantage, bien sûr il y avait un rapprochement déjà avec l'Iran, mais ce rapprochement de plus avec l'Iran dans le domaine énergétique avec le Liban, d'un autre côté, ce qui se passe en ce moment en Syrie. Donc il semblerait que l'axe US-Israël est de plus en plus sous pression et en panique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci?
Écoutez, on a un peu l'impression que les Occidentaux ne mesurent pas les données stratégiques des problèmes auxquels ils sont confrontés. Ils traitent l'affaire, comme vous ajoutez, uniquement d'un conflit local entre Israël et le Liban, alors qu'il s'agit d'un problème régional avec l'Iran. Et en particulier, les puissances occidentales sont tout à fait irresponsables. Ils comptent sur l'Iran pour cet hiver fournir du gaz et du pétrole, mais en même temps, ils braquent l'Iran. Ils attaquent son principal partenaire, c'est le Hezbollah, et en même temps, ils attaquent sur la question de l'Iran. Il y a un autre domaine dans lequel la Bolivie est responsable. On ne peut pas vouloir prétendre dialoguer avec l'Iran. Et en même temps, comme ça se passe, c'est sensible. Surtout, il y a toute télévision encourager la population iranienne à une révolution de couleur contre la République islamiste. C'est donc une politique qui ne conduira à rien et qui conduira à des problèmes centrales pour les Occidentaux. On a véritablement, c'est plus une impression. Il y a une méconnaissance de véritable modèle géopolitique et géostratégique des problèmes auxquels l'Occident est confronté.
Merci pour vos explications. Et Madame Oubala, comme conclusion de ce débat et de ce que vous venez de dire, on vous écoute.
Malheureusement, votre invité, j'ai pas pu. Le son est très très mauvais. Donc, malheureusement, je peux pas commenter ce qu'il a dit.
Oui, on s'excuse pour cette dégradation technique.
Oui. Donc si vous résumez, je sais pas si j'ai aucune idée à quoi vous répondre.
De votre point de vue, si vous voulez bien, en ce qui concerne en fait la situation dans laquelle se trouve le régime sioniste, comme le dit Monsieur Michel, cette situation qui se dégrade en fait en quelque sorte pour le régime sioniste avec toutes ces évolutions et ces progrès de l'acte de la résistance dans la région de part et d'autre.
Monsieur Michel a raison de dire que la situation du régime sioniste n'est pas brillante, pas seulement au niveau régional, parce que bon, nous avons le Hezbollah d'une part qui a renforcé son arsenal et qui a renforcé sa force de dissuasion au point que sa force de dissuasion a réussi à obliger donc l'autorité sioniste à faire des négociations, mais aussi l'axe de la résistance est renforcé puisque vous avez d'une part, il y a eu récemment le défilé militaire au Yémen avec de nouveaux missiles de longue portée et donc ces missiles sont des missiles qui peuvent atteindre l'entité sioniste, ça c'est très important. Donc l'axe de résistance en tant que tel avec l'Iran, la Syrie, l'Irak et le Yémen est en train de se renforcer. Voir aussi au niveau intérieur, c'est-à-dire au niveau des factions de la résistance palestinienne également, ils se sont renforcés. Mais encore au niveau de l'entité sioniste elle-même, c'est-à-dire il y a des rivalités de pouvoir au sein même de la maison sioniste entre les divers partis politiques israéliens. Ils ont également une échéance électorale. Et jusqu'à maintenant, il y a une certaine... on ne connaît pas quelle sera l'issue justement de cette échéance. Donc, au niveau interne, au niveau régional et au niveau international, l'entité sioniste n'est pas dans son meilleur moment. Ça, c'est certain. Et au niveau international, on sait très bien que, bon, vous avez les États-Unis qui ont prise avec une guerre non déclarée avec la Chine. Il y a d'un autre côté l'Union européenne qui est aux prises avec justement une guerre en Ukraine avec la Russie. Donc toute la situation mondiale au niveau des relations internationales est une situation qui est en train d'évoluer très très vite. Les événements sont très rapides et en même temps on ne peut pas tout de suite analyser ce qui risque de se passer. Donc on ne peut pas, l'entité sioniste est laissée pour elle-même pour l'instant, c'est-à-dire elle doit se débrouiller elle-même, mais aussi c'est le cas de tous les États, attention, c'est-à-dire que même le Liban, chacun est obligé de compter sur lui-même parce que justement la situation au Moyen-Orient est très fluctuante.
Merci pour vos explications. Rada Oubala, docteur en géopolitique à l'Université islamique du Liban. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, était avec nous pour ce débat. Nous avons évoqué le discours du Seyyed Hassan Nasrallah, mais également la situation générale entre le Liban, le Hezbollah et le régime sioniste. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette édition de débat. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur une nouvelle édition d'Afrique économie, une émission dans laquelle nous allons réviser les principales informations et évolutions économiques dans le continent africain. La première information, commence avec le Ghana. L'établissement de la première mine de lithium du Ghana est une priorité pour l'Australien Atlantic Lithium. Pour obtenir les fonds promis par l'Américain Piedmont Lithium afin de financer les travaux de construction, la société doit désormais boucler une étude de faisabilité. Au Ghana, la durée de vie de la future mine de lithium Evoya est désormais de 12,5 ans, contre 11 ans dans l'étude exploratoire de décembre 2021. Le propriétaire du projet, l'Australien Atlantic Lithium, a en effet publié le jeudi 22 septembre une étude de préfaisabilité dans laquelle elle revoit également à la hausse les recettes totales du projet, désormais estimées à 4,84 milliards de dollars contre 3,4 milliards de dollars précédemment. En revanche, il faut noter que la production annuelle de la mine a été revue à la baisse. Elle passe de 300 000 tonnes de concentré de spudemen à une teneur de 6% en lithium sur la durée de vie de la mine à 255 000 tonnes. L'investissement nécessaire au développement du projet a également augmenté pour atteindre 125 millions de dollars contre 70 millions de dollars précédemment. Cette augmentation substantielle s'explique, apprend-on, par l'intégration d'une installation de concassage en trois étapes du minerai avant son passage à l'usine de traitement. Elle permettra de limiter les pertes de lithium et de réduire les coûts d'exploitation de l'usine. Dans le contexte d'une demande mondiale de lithium soutenue, tirée notamment par la demande de véhicules électriques, nous pensons qu'Evoya jouera un rôle important en matière de production durable de lithium, a commenté Lennart Kolff, PDG par intérim Atlantique. En Zambie, le soja est l'une des principales locomotives de l'industrie des oléagineuses. De la production à la transformation, la filière affiche une bonne dynamique depuis quelques années. En Zambie, la firme agricole 260 Brands vient de recevoir une enveloppe de 5 millions de dollars de la part de Norfund, le fonds norvégien de financement du développement. Cet appui permettra à la compagnie de financer la modernisation de son unité de fabrication de lait de soja Nutramilk. D'une capacité de production de 9,6 millions de litres par an, lancée au début du mois de septembre. L'installation utilisera le procédé UHC, ultra haute température, et conditionnera le lait dans des emballages aseptiques, ce qui permettra d'avoir un produit commercial possédant une durée de conservation sur plusieurs mois et qui n'a pas besoin d'être réfrigéré avant l'ouverture de l'emballage. Un aspect important dans un contexte où les chaînes de froid ne sont pas disponibles dans toutes les régions du pays. Avec ce projet, la compagnie fondée en 1997 entend proposer une alternative aux produits laitiers traditionnels pour les consommateurs intolérants au lactose, non seulement sur le marché intérieur, mais aussi à l'échelle régionale. L'initiative devrait permettre de générer 100 nouveaux emplois et d'accroître les capacités d'approvisionnement local en matières premières de la compagnie. Selon les prévisions, le nombre d'exploitants fournissant en soja à l'unité devrait passer de 2 500 actuellement à 12 000 à terme. En Tanzanie, la pêche joue un rôle socio-économique important. Malgré le grand potentiel dont dispose le pays, le secteur reste encore sous-performant comparativement aux pays voisins. En Tanzanie, l'exécutif a lancé le mardi 20 septembre un nouveau plan pour renforcer la productivité du secteur de la pêche dans le pays, selon le quotidien local Daily News. Ce programme d'une durée de 15 ans sera mis en œuvre en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO,
jusqu'en 2037. Selon le Premier ministre Kassim Majaliwa, l'initiative devrait permettre de faire passer la contribution du secteur au PIB à 10% à terme, contre une part estimée à 1,8% en 2021. Dans le cadre de cette ambition, la nouvelle feuille de route sera principalement axée sur la conservation, la gestion et l'utilisation durable des ressources halieutiques, la promotion des investissements du secteur privé dans la filière et le renforcement des capacités des infrastructures de contrôle des activités dans la zone économique maritime du pays. La bonne exécution de ce plan servira de catalyseur pour la croissance du secteur de la pêche et augmentera le nombre de poissons et de produits de la mer qui sont prêts à être pêchés, transformés et exportés, explique le responsable. Les autorités tablent d'ailleurs sur une croissance de 35% des prises de produits halieutiques maritimes, qui devrait atteindre environ 639 000 tonnes à terme, contre un stock actuel tournant autour de 473 000 tonnes par an. Soudan du Sud et Djibouti ont signé un accord d'interconnexion par fibre optique. Sans service Internet abordable et de qualité pour l'ensemble de la population, l'économie numérique sera faussée. Le gouvernement sud-soudanais, qui en est bien conscient, s'attelle depuis 2020 à consolider ses capacités d'État. Lundi 19 septembre, le Soudan du Sud et Djibouti ont dévoilé la signature d'un protocole d'accord d'interconnexion par fibre optique. L'infrastructure télécom à haut débit partira de Djibouti, traversera l'Éthiopie jusqu'à Djouba. Pour le Soudan du Sud, cette interconnexion permettra de relier la capitale nationale au reste du monde, ainsi qu'à réduire le coût élevé de l'accès à Internet. Selon le ministère sud-soudanais de l'Information, des Technologies, de la Communication et des Services Postaux, le protocole d'accord sera suivi de la formation d'une équipe technique des deux pays pour mener à bien ce projet qui est d'une importance stratégique pour le Soudan du Sud. La fibre optique djiboutienne que le Soudan du Sud va tirer viendra s'ajouter aux autres infrastructures similaires dont le pays est déjà doté, déployées à travers des initiatives privées et publiques. En janvier 2020, le fournisseur de connectivité de haut débit Liquid Intelligent Technologies annonçait l'installation effective d'une dorsale en fibre de 200 km reliant la frontière ougandaise via Nimule à Djouba. À cela se sont ajoutés plusieurs nœuds métropolitains dans la capitale. Dès son arrivée au pouvoir en septembre 2021, le président Mamadi Doumbouya a fixé comme l'une des priorités de son gouvernement une plus grande implication des Guinéens dans l'exploitation de leurs ressources minières. Un projet de loi a été alors élaboré et transmis au Parlement de transition. En Guinée, le Conseil national de la transition, CNT, a voté à l'unanimité dans la nuit du jeudi 22 septembre deux projets de loi dont l'un porte sur le contenu local. Soumis par le gouvernement il y a quelques semaines, le texte est censé favoriser notamment le transfert de compétences et l'intégration des Guinéens dans l'économie, particulièrement dans le secteur minier. Au cours des premières semaines suivant son arrivée au pouvoir en septembre dernier, le colonel Mamadi Doumbouya, devenu président de la transition, a en effet placé le contenu local au cœur de ses discussions avec les acteurs du secteur minier guinéen. Pour l'amphore de Conakry depuis un an, les compagnies minières actives dans le pays doivent notamment confier exclusivement le transport terrestre des différents minerais et le déplacement des travailleurs à des intérêts nationaux, sauf cas de force majeure. Mamadi Doumbouya a également demandé aux investisseurs miniers de prioriser les compétences locales, au moins pour tous les postes administratifs. Il existe déjà en Guinée un cadre réglementaire en matière de contenu local dans le secteur minier. Ce cadre s'articule notamment autour du financement de projets d'infrastructures en faveur des communautés locales, de la formation et du renforcement des compétences des Guinéens, ainsi que du recours aux fournisseurs locaux.
Thank you.